Chapitre 5, suite. À peine seul, je sentis le poids d'un accablement tel que je n'en éprouvais jamais. À vrai dire, c'était la première fois que l'on me faisait toucher d'un peu près les choses du mariage. Quand je les avais abordées l'automne dernier, elles étaient en réalité voilées par un désir frénétique. C'était la condition pour continuer de voir Marie. Voir Marie était tout. La condition disparaissait. J'eus un instant, en voyant filer la voiture, le souvenir cuisant de ma cousine de la Julière, m'énumérant des chiffres de dot dans la petite chambre de Passy où j'étais convalescent, la minute amère où je brisais avec cette bonne parente toutes mes relations rompues par ma passion bien-aimée, ma vie depuis un an dans le cloître d'amour que j'avais construit autour de Marie et de moi, seuls au monde, tout le banal univers disparu, l'extraordinaire vie de volupté menée dans ma retraite. Mon pauvre ami, où vous ai-je entraîné ? Midi. Ta tête adorée à la fenêtre, ma chère chérie, ta tête toute inclinée d'inquiétude et de mélancolie. Ah, saurais-je jamais te dire ce que je ressens de te voir ainsi, et toute troublée encore d'une matinée si émouvante ? Quoi qu'il arrive, je pressens en moi la marque éternelle de la vision que j'ai de toi en ce moment-ci. Comme toutes les fois que je te vois, je ne puis me garantir d'un certain effroi qui est de sentir écouler une minute essentielle de ma vie. As-tu senti, toi, dit, as-tu senti de ces instants courir où l'on se dit « Goutte, goutte, cela passe, hélas, oh, cela est passé ». Cette petite forme qui est là-bas, accoudée, qui d'un moment à l'autre peut disparaître, que je ne verrai plus peut-être jamais là, c'est la forme sous laquelle me devait apparaître l'enchantement de la terre. Oh, si tu savais comme j'ai dans les yeux et dans le cœur la ligne que forment les cheveux que ta main a noués, celle de ton front et de ton visage, penchée sur la vieille Florence. Et voici, on t'a appelé, te voilà disparu, chère image, ô ma bien-aimée. Ne trouves-tu pas que quelque chose semble nous être descendu du cerveau dans le cœur? Et c'est pourquoi tu as pu me trouver ce matin si puéril et si sot, si méchant même, n'est-ce pas? Oui, mais meilleur. M'as-tu compris? Non. Je l'espère presque, car il y aurait chance que tu fusses dans le même état que moi. Nous commencerions à devenir très aveugles et très bêtes. Nous nous ferions beaucoup de peine et nous pourrions être très heureux. Pourtant, si tu étais ainsi, tu ne m'aurais pas fait ton triste adieu de ce matin. Mon pauvre ami, où vous ai-je entraîné? Où donc suis-je entraîné? À toi? Vers toi? Je ne pense pas à autre chose. C'est peut-être de quoi tu me blâmes? Mais alors, c'est que tu as gardé ta pensée, ton jugement, ton intelligence. Tu n'es pas aussi bête que moi. Alors, tu ne m'aimes point? Je vais te voir dans un instant, je serai à côté de toi, je toucherai ta main. J'ai peur de te voir, une peur d'enfant, une peur du bonheur aussi. Et encore aussi une peur d'amant. J'ai peur de me précipiter sur ta bouche. Ah, je t'aime, vois-tu, je t'aime toute, je brûle d'un baiser imaginaire, fantastique, de tout toi. Je veux que nous montions ce soir là-haut, sur ces collines parfumées, et t'entendre me dire des choses qui me brûlent, qui me consument lentement, qui me tuent. Je suis bête, 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 comme tu vois. Midi. Oh, mon André, je ferais peut-être mieux d'attendre avant que de vous écrire. Tant je suis suffoqué, tant les choses que je pourrais vous dire se ressentiront du trouble où je suis. Mais je ne peux pas attendre, il faut que je vous parle immédiatement. Il faut que vous m'entendiez pour me faire grâce à jamais d'un regard comme celui de ce matin dans cette maudite cellule de Savonarole. Allez, je ne m'y trompe pas. Je ne sais si vous me voyez bien clairement, vous, quand vous me regardez de la sorte, et j'en doute. Mais si vous saviez, vous, comme vous vous laissez voir, j'aurais commis la plus grande lâcheté, la pire vilainie, la plus basse trahison. Je me serais conduite comme une de ces femmes dont on ne prononce pas le nom, André. que vous ne m'auriez pas traité avec un plus accablant mépris que celui dont vous m'avez abîmé dans votre regard. Je tremble encore en y pensant, mon André, parce que, vivant en vous, peu m'importe ce que fut ma conduite en réalité, mais la couleur sous laquelle elle vous peut apparaître. De plus, je ne vous juge point comme les autres hommes, et il se peut bien que ce qui serait insignifiant à leurs yeux soit au vôtre un très gros péché. Alors, je ne sais plus vraiment la valeur de ce que j'ai fait. Je repasse dans ma mémoire avec terreur des mots que vous m'avez prononcés autrefois ou écrits, comme celui-ci du premier temps, mon ami. « Ah, ma chérie bien-aimée, ce sont vos propres termes. J'avais tant besoin d'un grand et haut amour. » Ne m'étais-je pas imaginé que je le comblais, moi, ce haut et grand amour dont j'ignorais les limites? Et cet autre mot, un jour, dans un affreux mouvement d'amertume, « Il n'y a rien, rien qui vaille. » C'était à Versailles, mon cher amour, lors de la plus grande imprudence que j'ai commise, et vous déchirâtes de votre canne de pauvre petite fleur qui était là, dans l'herbe. Je les regardais un instant, penché sur le côté, en me demandant avec effroi à quelle hauteur montaient vos beaux désirs pour avoir de si vifs mépris. Depuis, j'ai bien douté de moi, bien désespéré de vous satisfaire, et souvent, quand vous me parlez, j'éprouve un malaise que je viens aimer, il est vrai, hein, pensant que peut-être vous retenez sur vos lèvres de pareilles expressions de dédain, vis-à-vis de ce que je vous donne et que vous trouvez certainement rampant et vulgaire. Je vous ai fait si grand à mes yeux que je ne m'étonne pas que vous me jugiez si pauvre et si mesquine. Je me fais souvent l'effet d'être un enfant sur qui son maître aurait levé la main pour des raisons supérieures dans le moment même que le petit accourait l'embrasser. Cela ne me va pas encore trop mal. Mais aujourd'hui, je me sens aussi humilié que si vous aviez pris un bâton et m'en aviez frappé. Non, je ne croyais tout de même pas avoir mérité tant de dureté. Ah, j'ai vu tout votre regard aller jusqu'au fond. Il n'y a rien, rien qui vaille. Niez donc que vous ayez pensé cette chose la plus affreuse du monde. Et vous avez, une minute durant, descendu mes pauvres tendresses pour vous au niveau, j'en suis sûr, de ce que vous connaissez de plus bas. Ne dites pas le contraire. J'ai vu aussi vos lèvres à cet instant. Vous auriez craché. Oh, allez, j'ai honte, honte de moi, parce que vous devez avoir raison, parce qu'il faut bien que vous ayez raison. Je n'imagine pas que vous ayez pu m'aplatir ainsi que vous l'avez fait sans y être poussé par la cause la plus grave. Vous n'avez pas pu ne pas mesurer la douleur que vous me causiez. Je pense que vous l'avez voulu en proportion de ma faute. Ah, grand Dieu, mais quelle singulière pensée avez-vous donc de nous autres, misérables femmes? Quelle idée croyez-vous donc qui ait pu être liée par moi à la présence de ce malheureux flacon de sel dans ma poche? Après ce que je vous donne à vous de mon cœur, de mon âme, de toute ma personne, mais que peut-il donc me rester à donner à un autre? Mais j'aimerais mieux vous voir jaloux que méprisant. Et c'est méprisant que vous êtes. Pourquoi, mais pourquoi? Tenez, je me souviens de la parole la plus dure que vous m'aviez dite jamais. Ne sois pas, si tu veux, en réalité ce que je rêve, mais sois bonne à mon rêve. Moi qui ai été une petite orgueilleuse, fallut-il que je vous aimasse, ou mon ami, pour vous aimer encore plus vivement lorsque vous m'avez pressé contre vous, tout en lambeau que j'étais, après vous avoir entendu. J'étais bonne à votre rêve, alors. Mais aujourd'hui, n'ai-je pas cessé d'être même cela? Ah, mon Dieu, ah, mon André, faut-il que je t'aime encore pour ne pas te dire ce qu'il me brûle de te dire? Que je ne veux pas être bonne à ton rêve, que je crois valoir mieux qu'à remplir ce rôle de servante? Que je veux, à défaut d'être ton rêve même, recueillir directement ton amour, moi, pour moi-même, tout indigne que je suis. Que je ne veux plus être cette chose fausse qui soutient une passion dont je commence à être jalouse à la fin. Oui, ton rêve, ton maudit rêve, j'en suis jalouse. Je l'exècre. Je veux que tu m'aimes moi, rien que moi, pour moi. Mais non, 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 mon chéri, mon cher amour, je ne t'ai pas dit cela. Je reste ce que tu me fais, ce que tu veux bien que je sois. Trop heureuse d'être quelque chose par toi. Oh, je t'aime, ta pauvre Marie des Fleurs. Vers le commencement de la tombée du jour, nous prîmes la jolie route de San Domenico qui monte doucement à Fiesole. Ces dames étaient d'une grande tristesse. Il était visible qu'elles avaient pleuré l'une et l'autre. Marie me parut plus tendre que jamais et cependant désespérée. Ces dispositions contrastaient singulièrement avec mon état d'esprit qui était tout au bonheur de faire cette belle promenade à côté d'elle. Il y a peu d'endroits qui égalent en beauté cette ascension lente de Fiesole par une route en circuit dont le ruban embaumé touche les jardins, les villas et les villages, tout imprégnés encore des plus vifs souvenirs de l'histoire florentine. L'on voit peu à peu naître à ses pieds la figure de la ville, puis la plaine de Florence s'élargir, grandir indéfiniment, semble-t-il, puis s'arrêter tout à coup et comme pour se laisser embrasser d'un coup d'œil plus aisé au milieu de sa coupe de collines. On côtoie les jardins du Décameron et les séjours d'été du Magnifique. Enfin, j'essayais de faire revivre sur cette route qu'il parcourut notre cher peintre du couvent Saint-Marc qui nous avait transportés dans la matinée. Car il a vécu à Fiesole et il descendit par ici une nuit d'été et il dut de cet endroit embrasser comme nous Florence, fuyant son cloître et sa patrie devant l'invasion du schisme. Mais toutes ces choses ne pouvaient avoir de retentissement que dans un esprit sans préoccupation. Et l'étonnement était du côté de ces dames, qui ne semblaient pas concevoir que je ne fusse pas préoccupé. À un moment, Marie, qui ne se tenait plus, se pencha à mon oreille. « mon ami, dit-elle, vous n'êtes donc pas malheureux ?» Je lui mis dans la main le petit billet que j'avais écrit pour elle dans l'intervalle de nos entrevues. Elle m'en glissa un elle-même, et je lui laissais voir dans mes yeux que je n'étais qu'affolé d'elle. Elle sourit tristement. « Oui, oui, dit-elle, mais cela ne suffit pas. Et tout ce qui va venir, et tout l'avenir, dites, n'êtes-vous pas malheureux, ma petite folle ?» Elle me regarda très profondément. Nous avions mis pied à terre sous le prétexte d'admirer le paysage. Madame Vitellier demeurait à l'écart. « Vous voulez avoir l'air de rire, dit-elle. Mais je vous connais bien, mon ami, vous ne savez pas jouer, et le seul mot d'avenir vous fut toujours désagréable, je sais. Je viens de le prononcer. Vous avez cru faire le gentil, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez fait la grimace. » Vrai ? Je vous l'affirme. Mais ne vous en offensez pas, ma chérie, puisque vous connaissez la sorte d'effroi puéril que ce mot produit sur moi-même dans votre bouche. Mais aussi, pourquoi violer le temps qui ne se donne que minute à minute? L'avenir est formé sans doute de la qualité que nous tâchons de donner à la minute présente. Faisons-la belle, et il est à supposer qu'elle enfantera des minutes heureuses. « Poète, dit-elle, merci. »« Ah, pardon, c'est une injure que j'ai l'intention de vous jeter à la face, » prononça-t-elle en s'efforçant à rire, tandis que Madame Vitellier nous rejoignait pour remonter en voiture. J'avais si envie d'être heureux aujourd'hui que je me contraignis à ne pas voir en Marie le petit instinct fâcheux qui la faisait me négliger, en ce que je valais dans l'instant pour ce que je pourrais valoir dans son avenir. » Je veux bien qu'elle eût raison, mais avoir raison n'équivaut pas à être heureux. Je ne vis donc que la grâce incomparable qu'elle avait dans les multiples mouvements que ses journées ardentes lui donnaient. Le jour bistré de ses yeux légèrement creusés par l'angoisse et l'étirement sensible de la peau très fine de chaque côté du nez faisait saillir l'os un peu fort. Sa tempe où l'agitation transparaissait, ses lèvres qui se séchaient et qu'elle humectait à mesure, me la rendaient tout entière délicieuse, et jusqu'à son acharnement, puis soupçonné encore, couvertement déclaré, à me vouloir éprouver autre que je n'étais. Enfin, le feu de l'attente des événements, qui couvait peut-être aussi au fond de moi, après tout, m'excitait à aimer d'une façon nouvelle et plus vive encore, malgré que je fusse en vérité brisé d'aimer, d'aimer du cœur éperdument et sans répit. Il arriva, à un tournant de notre route sinueuse, que le spectacle de Florence tout entière, étendue sous le soleil déclinant, nous arracha à tous une même exclamation. Ici, la beauté fut plus forte que tout, et ces deux natures de femmes si diverses s'y oublièrent confusément. De grands vieux oliviers semblaient ouvrir pour nous, au passage, leurs lourdes branches nonchalantes et d'argent frémissant. Les jardins nous soufflaient la laine des fleurs nouvelles. Des roses grimpantes, penchées sur la crête des murs, avaient la grâce chaude de vivants sourires. Nous ne savions que dire, et nous prononcions seulement l'adorable nom qui désormais signifiait tant de choses pour nous. Florence, oh Florence, Florence. On descendit de voiture et se promena quelques minutes de long en large sur la place de Fiesole. Mais on fut désappointé, on ne voyait rien. L'entrée des ruines du théâtre antique était fermée à cause de l'heure avancée. « Oh, je sais, » dis-je, « un endroit, venez. » « Par cet escalier ?»« Oui, oui, par cet escalier. » Et ce fut par là que nous atteignîmes le petit tertre qui est devant l'église Saint-Alexandre, point culminant des hauteurs de Fiesole. Un arbre, un banc, un mur bas à une hauteur des genoux. Derrière nous, l'église avec un bouquet de cyprès. Devant nous, Florence et sa vallée. Florence palpitait dans une brume d'or, et dans le milieu de sa grande coupe de collines, et l'heure la rendait plus vivante, et elle semblait donner le branle à cette large frénésie d'avant le coucher, à tout ce battement d'ailes d'oiseaux dont le bruit nous venait des jardins, mêlé aux cris aigus et clairs d'enfants et de femmes sur les terrasses des villas. Sans plus rien dire, nous laissâmes nos regards flotter un moment au hasard. L'Arno ondulait vers le couchant, le long de la promenade des Caxines, ses incendies et le soleil. En face de nous, de l'autre côté de la ville, nous reconnûmes les vieilles murailles, parmi les broussailles de Bellesguardo, San Miniato, notre grande place de Saint-Michel-Ange, et les bobolis inoubliables avec leurs longues allées ténébreuses et les glaives de leurs cyprès. Les monts de Casencino, et tout l'Occident jusqu'à Valombreuse commençait de mourir dans le bleu, et l'on voyait à l'opposé verdir les montagnes de Carrare sous de longues traînées de lilas. Enfin, à nos pieds, la ville où Marie m'était apparue la première fois, recevant les dernières flux du jour sur son dôme de marbre et sur la forêt de ses campaniles. Marie, émue et se contenant à l'excès, ne pouvait parler. Je n'osais ni la regarder ni lui adresser la parole, certain que le moindre signe apporterait un comble à son état et provoquait une brusque détente pénible. Nous nous taisions. Le soir se répandait. Marie se rapprocha de moi sur le banc. Je pris sa main. Elle me l'abandonna si complètement que je dus comprendre qu'elle ne me donnait que cela à défaut d'elle toute. Oubliait-elle l'avenir en cet instant de merveilleuse beauté? Je serrai sa main tendrement. Je me disais, voici revenue une de nos minutes célestes. Jouir, jouir du moment délicieux et du meilleur de nous qui s'exalte. Chose étrange, ce fut dans le temps même que Marie semblait quitter ses soucis pour venir à mon ravissement, que ses soucis me pénétrèrent à mon tour, et soudain, comme par la pointe d'un stylet empoisonné, Marie, recouvrant toute la grâce de son imagination heureuse, me dit tout à coup « Oh, mon ami, regardez là-bas, partout les petites villas blanches. On dirait qu'elles accourent, pareilles à des moutons qui rallient le gros du troupeau. Elles descendent jusque des collines les plus éloignées. Elles viennent de tous les points de l'horizon, Cahin, Cahin, dans les champs d'oliviers. C'est vrai, c'est vrai. On dirait qu'elles viennent toutes sur Florence, à cause de leur nombre qui croît à mesure qu'on se rapproche du centre. Et ce centre, dis-je, savez-vous quel il est? Savez-vous qui les attire ainsi? Et c'est ce dôme de marbre encore tout imprégné de lumière, alors que tout le reste commence à s'assombrir. C'est cette belle coupole où s'abritent tant de rêves, sous l'invocation de Sainte Marie des Fleurs. C'est la fraîcheur de ce long divin, l'attrait de cet éternel printemps qui appelle toutes les petites maisons blanches du monde. Ah, dis-je tout frissonnant et m'appuyant sur son épaule, n'est-ce pas qu'on aime à imaginer que tout cela rentre le soir, se blottir contre ce dôme de songe? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Oh oui, oui, votre idée est charmante, et vous avez 100 fois raison. C'est cette idéale coupole qui séduit vers le soir d'innombrables troupeaux blancs répandus dans les champs d'oliviers. Et je pensais, malgré moi, mais il y a aussi la forteresse sombre et carrée du palais vieux, dont la haute tour aux arêtes vives veille comme une sentinelle au flanc de la belle cathédrale. Celle-là est forte, impassible et farouche, peu séduisante. Mais sans elle, on ne viendrait point, peut-être, n'imaginerions point voir accourir les troupeaux blancs de la campagne florentine. Car celle-là est le gouvernement fort, les armes, la tradition ancienne, l'intelligence positive, la sécurité, en un mot tout ce que je devais être pour vous, petite Sainte Marie des Fleurs, et tout ce que je ne suis pas. Poursuivant ma pensée, je m'effrayais de tenir la main de Marie dans ma main, sous les yeux de cette mère qui nous bénissait déjà. Je n'en étais pas digne, je n'avais pas la force qu'il fallait. Je soulevais la main de Marie et la reposais sur ses genoux. « Qu'est-ce qu'il y a ? » dit-elle. « Non, il n'y a rien. Oh, si. » « Eh bien, je pensais à ce palais vieux qui m'inspire soudain des idées politiques. »« Mauvais plaisant, » dit-elle un peu grossée. « Pouvez-vous bien rire ? » ?»« Je ne ris pas tant que ça. » Je ne riais pas du tout. Le premier souffle de la nuit ayant fait gémir brusquement le bouquet des cyprès derrière nous, Marie se retourna vivement et se cramponna à moi de nouveau. Je ne pus retenir un frisson à cause de l'à-propos singulier de ce menu fait du hasard. Elle avait eu peur et s'était réfugiée contre moi. Est-ce que j'étais un refuge en vérité ? Cette secousse me porta à rire encore une fois amèrement. L'homme, dis-je en m'efforçant de rassurer Marie d'une forte pression de main, l'homme, voyez-vous bien, doit être pour la femme à la fois ce que sont le dôme de marbre et le palais vieux pour nos troupeaux imaginaires. C'est-à-dire ? C'est-à-dire un beau conteur de chimères, un miroir reflétant tout en beauté et une forteresse. « Eh bien, dit-elle, réfugiée câlinement contre moi, eh bien, ah, oh, cher petit être aimé !» Elle oubliait dans cette heure d'abandon toute l'inquiétude que mes extraordinaires insouciances lui avaient donnée dans le courant du jour. Aveugle, comme toutes les femmes, elle me trouvait parfaitement complet ce soir-là, par le besoin qu'elle avait de trouver à côté de soi quelqu'un de parfaitement complet. « Eh bien, me disais-je à moi-même, toi, toi, profite donc, insensé, du moment exquis qu'elle te donne. Mets donc quelque logique en tes plaisirs. » Hélas, je m'aperçus que la logique de nos plaisirs consistait en une alternance à peu près régulière de conscience et d'aveuglement. Notre ciel était d'ouvrir ou de fermer les yeux simultanément, ce qui nous arrivait toujours autrefois du temps de nos courtes entrevues, mais ne pouvait se produire perpétuellement avec la fréquence de nos rencontres et de nos entretiens. « Il serait l'heure de rentrer, » dit Madame Vitellier. Nous ne répondîmes pas. « J'ai peur, » me dit Marie, « de l'heure qui s'écoule. Je n'ai jamais senti rien me pénétrer si vivement que tout ce qui est dans l'instant que je vous parle, mon ami. Il me semble que j'aurai toute ma vie présentes à l'esprit les choses que j'entends en ce moment-ci. Cette Florence, ce vent dans les cyprès, ces cris du soir dans les jardins, et ma voix. Oh, mon André, parlez-moi. Cela ne me quittera plus, j'en suis sûr. Mais quelque chose me dit que je ne retrouverai jamais, jamais cette heure-ci dans la réalité, cette heure-ci à côté de vous, André, à côté de votre façon de sentir. Car je m'imagine que c'est à travers vous que tout m'arrive, que vous partiez, je ne sentirai rien. C'est, ma chérie, qu'il n'y a ici ni Florence, ni bruit du vent dans les cyprès, ni même ce timbre particulier que nous prêtons voix qui s'élève dans les jardins le soir. Mais il y a nous qui aimons. Ah, ah, dit-elle, je vous ai entendu. J'ai votre dernier mot qui résonne, qui chante, chante à mon oreille. Je suis heureuse, heureuse. Elle jeta sa tête charmante sur mon épaule avec une pression et une caresse de chatte. Je vis ses paupières abaissées, l'ombre longue de ses cils rejoignit le bistre de ses yeux fatigués. Je vis encore quelques reflets d'or sur ses cheveux ondulés. Tout le reste me parut enveloppé de nuit. À ce moment, comme la veille, les cloches tintèrent presque toutes à la fois. Et soudain, elle se répondait de Fiesole à Florence et à 100 villages alentour. C'étaient des voix claires et quasi pimpantes, à peine mélancoliques, un jasement, un babillage avant le coucher, quelques-unes à la résonance longue et frisante dans l'air léger, donnant l'idée d'un jeu de grâce à la tombée du jour. Un concert de voix enfantines nous vint en même temps de l'église, et l'air devint frais. Vers 10 heures du matin, on va m'avertir qu'une dame m'attendait au salon de l'hôtel. « Cette dame est seule ?»« Oui, monsieur, c'est une dame d'un certain âge. » Madame Vitellier, seule et venant me trouver chez moi. Grand Dieu, que pouvait-il y avoir ? J'accours. Madame Vitellier, m'ayant reconnu, me prend les mains précipitamment. « Oh, monsieur André, me dit-elle, nous sommes perdus. Ah, plaignez-moi, je suis bien malheureuse. Mais expliquez-vous, madame, je vous en prie. Hélas, ne comprenez-vous pas ?» Et elle me tente une dépêche de Paris. « Jamais, jamais, au surplus, j'arrive, Vitellier. » Il me passe une sorte d'éblouissement court. Puis un mouvement de colère me remonte. J'entrevois la réalité, et selon la tournure de mon caractère, ce n'est pas encore l'affreux avenir, la séparation éternelle d'avec Marie qui m'accable, mais ceci seulement, tout de suite, tantôt. Ne vais-je pas pouvoir voir Marie ? Si cette femme me disait « Nous avons encore un peu de temps, venez nous trouver cet après-midi, vous la verrez. Il me semble que je ne penserai pas à notre malheur. » Mon premier mot insensé laisse cette pauvre Madame Vitellier ébahie. « Mais elle, pourquoi ne l'avez-vous pas amenée ?»« Allons, vous êtes fou, » dit-elle après un instant d'hésitation. « Vous ne pouvez plus la voir. »« Je ne peux plus. »« Monsieur, » me dit-elle, « je n'ose me repentir de l'extrême faiblesse que j'ai témoignée vis-à-vis de ma fille et de vous. » Mon cœur seul me faisait agir et sans doute je continuerais à en suivre l'impulsion s'il ne dépendait que de moi. Mais le père de Marie a prononcé contre mon attente et mon désir. Monsieur Vitellier est d'une fermeté inébranlable. Je n'avais compté pour le fléchir dans sa détermination première, connue de vous depuis 7 ou 8 mois, n'est-ce pas, monsieur ? Je n'avais compté, dis-je, que sur mon propre retour, sur ma parole, sur le parti infiniment grave que j'ai cru pouvoir prendre sur moi d'adopter à votre égard lors de notre rencontre ici. À vrai dire, je prévoyais une tempête violente, un coup terrible, mais dont tout le fracas devait s'éteindre devant mon imprudence accomplie. J'endossais tout. Ah, monsieur, que n'eusse-je pas fait pour la santé de ma fille, et votre présence la ressuscitait. Eh bien, m'écriai-je, la tuerez-vous donc à présent de complicité avec monsieur votre mari? Sans doute, hélas, prononça-t-elle avec une froide raison, si mon mari le décide ainsi, car je ne suis que mère et n'ai aucun droit de m'opposer à ce qui sera décidé, à ce qui est décidé, car M. Vitellier ne reviendra pas sur sa parole, je vous le répète. Mais, madame, cela est infâme, cela est sans nom. Vous avez vu Marie dans mes bras, vos larmes. Votre indulgence, votre amour de mère vous ont béni tous les deux enlacés. Madame, vous ne pouvez nier qu'il en fut ainsi. Oui, oui, fit-elle tout à coup suffoquée par les larmes. Mais n'était-ce pas le plus solennel, le plus beau, le plus efficace des serments? Le pouvez-vous rompre? Allez-vous nous en délier? Mais nos mains étaient nouées confusément avec les vôtres. Allez-vous jeter cet enfant dans des bras étrangers? Mais enfin, madame, que faudrait-il donc pour que vous jugiez que Marie m'appartient? Taisez-vous, dit-elle, la figure cachée par les deux mains. Je ne suis rien, je ne puis rien. Monsieur Vitellier est informé de tout cela. Je bondis. Monsieur Vitellier est informé de tout cela. Et vous avez eu sa réponse. Je tombai sur une chaise, me demandant si je rêvais. Puis je me sentis envahi d'une amertume et d'un dégoût immense. Je serais curieux de savoir où M. Vitellier entend placer son point d'honneur. Eh, monsieur, de quoi parlez-vous? Ce sont là des choses qui se posent aux quatre points cardinaux. Je ne pus m'empêcher de sourire de la réponse opportune. Ma colère tournait vers le goût du sarcasme. J'aurais voulu m'oublier et me noyer dans de petites phrases venimeuses lancées à la première personne venue. Mais volontiers à cette femme, afin qu'elle souffrît dans tout son être pour être accointée à ce banquier sans entrailles et sans pudeur. Moi-même, à ce moment, je me souillais du regret de n'avoir pas fait de Marie ma maîtresse pour pouvoir aller souffleter ces gens à la face et devant tous. J'ai eu votre fille, monsieur, madame, oui, je l'ai eue, chez moi, chez vous, dehors, dedans, partout où j'ai voulu. Vous ne voulez pas me la donner? Il y a de quoi rire. Mais c'est moi qui vous la rends, tenez, monsieur, madame, j'en suis sous. Ah, ah, poids! Je m'empoisonnais moi-même. Je me fis honte de m'être laissé amener par l'idée de ce père à abîmer l'idée de mon cher grand amour. Madame Vitellier, qui me regardait, lisait sur ma bouche que je distillais un fiel atroce. Je contractais la mâchoire comme pour vomir, puis je rougissais, puis j'étais prêt à tomber à genoux, à demander pardon à n'importe qui, à pleurer d'un désespoir confus, d'une détresse totale qui ne me laissait plus aucune idée un peu claire. Si, j'avais celle-ci comme un entêtement d'enfant, revoir Marie. Follement, stupidement, je suppliais, mais laissez-moi la revoir. « Mais vous n'y pensez pas !» dit Madame Vitellier, qui, ayant essuyé ses larmes, avait repris sa dignité. « Une fois, une seule fois, tout de suite, tantôt !» Je me traînais à ses genoux. Je me sentais absolument ridicule, j'étais fou. « Allons, dit-elle, monsieur, vous plaisantez. Il est temps que je me retire. D'ailleurs, j'ai tout dit, monsieur, adieu. » Je ne perdais pas à la violence de mon désespoir. Ma passion devait produire l'effet le plus grotesque. Mais cette séparation imminente, irréparable, me semblait impossible, ainsi que ces précipices de cauchemar où l'on se sent tomber tout en disant « Non, 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 ça ne va pas être, je vais m'éveiller auparavant. Madame, ayez pitié de moi. Vous ne voyez donc pas que je l'aime en perdre la raison ?» Elle fut touchée à nouveau par ma sincérité. Elle se rapprocha. « Voyons, voyons, mon ami, il faut être raisonnable. » Cette consolation, dans le moment même que je lui disais que je perdais la raison, me fit éclater de rire et raviva ma colère. Elle en fut blessée et me dit d'un air pincé, « Vous n'êtes pas sérieux, décidément. » Sérieux, raisonnable, mais est-ce que tout ce qui se passe a l'apparence d'être sérieux et raisonnable? Vous-même, madame, en vous reconnaissant vaincue en ces affaires, en avouez la monstruosité. Je ne sais pas, je ne sais rien, dit-elle. De grâce, ne m'embrouillez pas davantage. Nous n'avons pas coutume, nous autres, d'éclaircir par nous-mêmes les affaires. Mais qui donc les dirige au fait, ces affaires, fis-je, commençant par me ressaisir. Quoi, je ne vous comprends pas. Oui, je demande, quel est l'instigateur de cette résistance effrénée, de cette opposition inhumaine? Car je fais l'honneur à M. Vitellier de le croire incapable d'une mesure aussi impitoyable. Ce n'est ni un père ni un ami qui maintient cette rigueur de fer. Il y a là-dessous une volonté tenace qui est plus forte que tous les principes de M. votre mari. Il y a une machination infernale à quoi nous obéissons tous ici, il me semble. Nous sommes tous courbés les uns devant les autres, à ce qu'il paraît. Moi devant vous, vous devant M. Vitellier. Mais M. Vitellier, madame, devant qui donc, s'il vous plaît, tient-il cette singulière posture? Car il la tient, je vous assure qu'il la tient. Madame Vitellier me regarda avec des yeux effarés, qui soudain s'éclairèrent. « Ah ! » fit-elle. « Ah ah ! Vous voyez donc bien, madame, qu'il y a quelque chose. Ce quelque chose, vos yeux viennent de le découvrir. Mais dites donc que je ne me trompe pas. » Je trépignais, je frappais du pied le sol. Des girandoles de Venise qui tremblèrent nous firent détourner la tête. « Ah, vous savez donc, » dit-elle. « Mais quoi, quoi ? » demandai-je impérieusement, en frappant toujours du pied. La pauvre femme, affaiblie par l'étonnement, oubliait que je la maltraitais. Et à mesure que mon exigence augmentait, elle était plus prête à m'avouer ce qu'au fond elle n'eût pas voulu me dire. « Mais qui vous a dit ? » reprit-elle. « Mais personne ne m'a dit, madame, je soupçonne. Je raisonne, si vous voulez, et je suis sûr qu'il y a quelque chose. » Qu'il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui est la volonté de M. Vitellier, quelqu'un qui a introduit son armature d'acier à la place du cerveau et à la place du cœur de M. Vitellier, et qui ainsi le gouverne dans un but unique dont il élague les voies à coup mesuré d'une rigueur mathématique. N'est-ce pas cela, dites, n'est-ce pas cela? Marie vous a parlé de M. Arrigan? Ha ha! Le voilà, vous avez dit son nom. Voilà dévoilé le démon qui nous hante. Mais qu'a-t-il à s'acharner ainsi contre une jeune fille qui le repousse? Le dépit, la haine? Tant de fiel entre-t-il dans l'âme d'un homme d'argent? Est-ce que 2 ou 3 coups de bourse ne lui vaudraient pas la fortune de Mademoiselle Vitellier? Mais il y en a de plus riches qu'elle. L'aime-t-il? Ne riez pas, monsieur, ne riez pas de cet homme-là. Cet homme-là, mais je le tuerai, madame. Je l'assassinerai au besoin, comme il est juste de le faire, à qui se joue de la sensibilité et du cœur d'un être. Je l'écraserai comme un animal nuisible, comme le monstre venimeux qui se faufile en rampant, dont les forfaits s'accomplissent dans l'ombre et le calcul. Vous le prendre, n'est-ce pas? Oui, car il se cache, il se terre. Mais j'aurai sa piste. Ces gens-là ont une odeur que nous sentons. Voulez-vous que je vous dise? J'imagine que notre homme n'est pas loin. Monsieur Vitellier l'amènera? Non, point. Il est ici avant Monsieur Vitellier, si son intérêt l'exige. Il nous écoute peut-être derrière ce mur. Ah, tenez, je crois qu'il ne nous a jamais perdu de vue. Il était l'ombre empoisonnée qui glaçait tout à coup les meilleurs instants de notre bonheur d'un jour. Je vous supplie, dit Madame Vitellier en croisant les mains, de ne point vous occuper de cet homme. Partez plutôt, quittez Florence momentanément. Nous n'y resterons pas longtemps, je suppose. S'il y a une chance de salut pour vos projets, qui ont été les miens, je vous promets de la réchauffer de tous mes soins. Je vous préviendrai, mais éloignez-vous. Je veux d'abord voir cet homme et le tuer. Mais qui vous dit qu'il sera ici ? Votre question même me prouve qu'il n'est pas impossible qu'il y vienne. Je gage que vous l'attendez tôt ou tard. Non, partez, je vous en conjure. Mais c'est abandonner Marie, dont le cœur m'appartient. Au prix seulement de votre départ, je vous promets mon concours. Hélas, madame, tout le sens de cette entrevue fut de me faire entendre que votre concours est sans force. Aimez-vous mieux la guerre entre nous ? Mais, madame, entre vous et moi, il y a votre fille que chaque coup atteindrait. Hélas, hélas ! Sur ce triste mot, madame Vitellier me quitta. Une heure après, Marie me faisait remettre ce mot. « Pars, mon cher amour, prends un billet pour Venise et arrête-toi à Ferrare. C'est une grande ville déserte et triste où nous serons bien. Tu m'y attendras. Ne t'étonne pas, ne t'effraie pas, n'hésite pas. Je suis résolue, ta Marie des Fleurs. » J'eusse été décidé à partir, ce seul mot m'en eût empêché. Je ne voulais pas entraîner cet enfant à sa perte. Il fallait non seulement ne pas partir, mais montrer que je n'étais pas parti. Je passai un quart d'heure à ma fenêtre, tournée du côté de la Casa Santillo, dans l'espoir de voir paraître Marie. Enfin, elle paraît. Il faut qu'elle ait beaucoup souffert. Le cerne bleu de ses yeux des mauvais jours a rejoint la courbe de ses sourcils en un cercle complet. Je ne distingue de loin dans sa figure de cire que ces deux grands trous noirs où brillent les lumières de son regard qui me veut parler. Le désordre doré de ses cheveux enveloppe le visage transfiguré, tendu vers moi désespérément. La distance m'empêche de distinguer la mobilité probable de ses traits. Je ne vois que ce masque extraordinaire dirigé vers moi et dont l'angoisse et l'ardeur fixe me font frissonner jusqu'aux moelles. Est-ce la douleur ou un espoir insensé qui donne un tel feu à cette face immobile et cependant étrangement vivante ? Je suis fou. Peut-être mon exaspération me rend-elle visionnaire ? Je prononce malgré moi, « Ma Marie, ma petite Marie, est-ce toi ?» Mes paroles se perdent dans la distance et dans l'air indifférent. Elle a fait un signe de la main. Que signifie-t-il ? Je me dis, oh, si je n'étais pas si troublé, je le trouverais simple et compréhensible. La peur de ne point saisir fait que je ne sais l'interpréter. Le désespoir me prend. Ce signe est de la plus grande importance, mais mes yeux se couvrent. Je ne distingue plus rien. J'essaie de me remémorer le mouvement qu'elle a fait. Je m'essuie les yeux, je veux la revoir. Elle a disparu. Ah, triple saut, elle m'a dit de la main. Pars, pars, c'est clair. Et sa figure est celle d'une enfant qui quitte tout pour venir à moi. Si je ne pars pas, elle m'aura devancé. Alors vais-je la laisser seule ? Et me voici faisant mes valises.